Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Et oui, il est 6h, 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'actualité locale de Syllab. Il y a 9 ans, le 13 novembre 2015, 130 personnes perdaient la vie dans les attaques terroristes du Stade de France, du Bataclan et des terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris. Le bilan fut longtemps établi à 130 décès, mais on en compte aujourd'hui 133. Car comme l'a dit Arthur Desnouveaux, président de Life for Paris, association de victimes et de familles de victimes, le terrorisme est un poison qui tue aussi sur le temps long. Dans les années qui ont suivi les attaques, 3 personnes se sont ôté la vie. Leurs noms, Guillaume Valette, France Élodie Besnier et Fred De Wild. Aujourd'hui, nos pensées vont aussi vers elles et eux et leurs proches. Tout de suite, le flash d'Aglaï.
Des déclarations et un nouveau bilan humain concernant la guerre au Proche-Orient. Ce matin, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a interpellé Israël au sujet de l'OTAN. Il a déclaré « Nous avons besoin de voir des pauses réelles et prolongées dans de grandes parties de Gaza ». Aujourd'hui, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé un nouveau bilan. Plus de 43 000 morts dans le territoire palestinien, dont 47 tués ces dernières 24 heures. Au même moment, au Liban, une nouvelle frappe a touché ce matin la banlieue sud de Beyrouth après un appel de l'armée israélienne à évacuer la zone. Au moins 6 personnes ont perdu la vie. Israël, où il y a 2 jours, le nouveau ministre de la Défense Israël Katz prévenait que Téhéran est plus exposé que jamais à des frappes sur ses installations nucléaires. Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était d'ailleurs attendu aujourd'hui en Iran pour des discussions autour du nucléaire. Il a indiqué hier dans un entretien pour l'AFP qu'il était impératif de trouver des moyens pour arriver à des solutions diplomatiques. Department of Government Efficiency, ou le nouveau ministère du gouvernement Trump. La nouvelle est tombée hier, Elon Musk, le PDG le plus riche de la planète, sera le futur ministre de l'efficacité gouvernementale. Il travaillera en collaboration avec Vivek Ramaswamy, un homme d'affaires républicain. Le rôle d'Elon Musk, selon Donald Trump, sera de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les réglementations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Activiste martiniquais pour le RPP RAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, dont il est le président, Rodrigue Petitot a été interpellé hier soir à Fort-de-France. Une interpellation qui interpelle alors que la Kanaky est secouée par des révoltes depuis 6 mois. Syriane nous explique la situation et les liens entre ces événements.
En effet, Aglaï, il est une figure de proue du mouvement contre la vie chère aux Antilles. Il a d'ailleurs été plusieurs fois convié à des discussions concernant la situation avec les politiques de la région. Dimanche, le R, comme il est appelé par ses soutiens, était présent à la marche contre la vie chère en Martinique, mais aussi en soutien à la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Lundi, après son retour à Fort-de-France, le militant s'est introduit dans l'enceinte de la résidence préfectorale. Son but, obtenir un entretien avec le nouveau ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, en visite express sur l'île. Il a été stoppé par des forces de l'ordre, mais aussi par le préfet de la Martinique en personne, Jean-Christophe Bouvier. Rodrigue Petitot n'a donc pas pu dépasser les portes de la résidence. La scène a été filmée et retransmise en direct sur le compte TikTok du militant. Hier, mardi 12 novembre, l'activiste a donc été interpellé à Fort-de-France en bas d'un bâtiment. 5 policiers cagoulés, matraques et gaz lacrymogène à la main et accompagnés d'un chien, de plusieurs chiens même, l'ont embarqué à bord d'un SUV blanc. Des compagnons du R, partis à la poursuite du convoi, ont réclamé sa libération immédiate. Là aussi, la scène a été filmée et publiée sur YouTube cette fois-ci. Et là, vous allez demander, mais pourquoi Aglaé m'a lancé sur les 6 mois des révoltes en Kanaky alors que là, on parle d'un activiste martiniquais? Genre, j'ai tout whipping, quoi. Eh bien, en fait, car déjà, il a été interpellé pour son infiltration dans la résidence préfectorale et aussi juste après sa présence à une manif en soutien à la Kanaky. L'île étant secouée depuis mai par des révoltes après l'annonce d'une réforme du dégel du corps électoral. Réforme allant donc à l'encontre de l'accord de Nouméa signé en 1998 et promettant de conférer la pleine souveraineté au peuple kanak. Et ensuite parce que ces méthodes d'arrestation dans les Outre-mer, elles sont bien plus courantes que dans l'Hexagone. En témoigne l'arrestation de 6 militants kanak en mai dernier au lendemain des révoltes. Et parmi ces 6 militants, on compte Christian Tain, président du FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, incarcéré depuis maintenant 6 mois à 17 000 km de son île au sein de la prison de Mulhouse. Depuis ce jour, en Kanaky, on décompte 13 morts, dont 11 civils et 2 gendarmes, des centaines de blessés, 2500 interpellations pour environ le même nombre de gendarmes déployés. Côté matériel, les coûts sont estimés à 2,2 milliards d'euros de dégâts.
Et qu'est-ce qui a changé du côté des discussions entre politique et Kanak concrètement ?
Alors, pas grand-chose en vérité, puisque comme vous le savez, la politique a été à un point mort pendant tout l'été, la France ayant fonctionné sans gouvernement pendant près de 3 mois. Cependant, on pourrait quand même souligner les modifications des couvre-feux imposés aux citoyens et citoyennes dans certains quartiers. Mises en place dès le lendemain des événements du 13, ces interdictions de circuler sont passées de 18h à 6h en mai, à une interdiction entre minuit et 5h depuis le 4 novembre, un assouplissement s'appliquant aussi aux restrictions de vente d'alcool.
Et on note que ce mardi, Gérard Larcher a parlé pour la première fois devant le Congrès d'une souveraineté partagée. Une première. Quant au corps électoral, la réforme est remisée, mais pas enterrée.
Une nouvelle mobilisation agricole en approche, Aglaé.
Nous allons nous mettre en route à partir de lundi. C'est ce qui a été annoncé ce matin sur les ondes de France Inter par Arnaud Rousseau, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Cette mobilisation survient en plein G20. La réunion internationale se tient au Brésil du 17 au 18 novembre. Là-bas pourrait être signé un accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, comprenant le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie. Les agriculteurs entendent interpeller les pouvoirs publics concernant cet accord. Le risque, une concurrence déloyale pour les agriculteurs et agricultrices de France. À l'occasion de l'avant-festival de Regard, le nouveau festival de cinéma queer de Rennes créé par l'association Iskis, le dernier film d'Alexis Langlois, Les Reines du Drame, a été projeté en avant-première le jeudi 24 octobre à l'Arvor. Pema est allée interviewer les spectateurs à la sortie du cinéma, ainsi que Armel et Nadine, organisatrices du festival.
Je vais vous poser une première question, donc vous présenter, un peu me dire quel est votre rôle déjà à Iskis et dans le festival.
C'est vraiment ma première année à Iskis et je suis venue à Iskis par l'intermédiaire du festival qui s'est créé cette année, le festival de films. Concernant Regard, je suis à la programmation.
Moi, je suis à Iskis en fait depuis à peu près 3 ans et j'ai lancé l'idée du festival. Le cinéma, on y va tous un petit peu de façon naturelle. Moi, ce qui me semblait intéressant, c'était de faire un festival à Rennes.
D'avoir un public queer qui regarde en même temps un film, ça a tout son sens, de mon point de vue et du point de vue de toutes les personnes qui organisent ce festival.
Concernant un peu plus l'avant-festival qui s'est passé il y a 2 semaines, je voulais savoir déjà dans quel but vous aviez fait cet avant-festival.
Alors, c'est un petit peu parce qu'on pensait l'avoir dans le festival, à savoir qui a lieu du 11 au 15 décembre. Et donc la sortie salle des Reines du Drame a été au 18 et ça a été avancé au 27. Voilà, tristesse quoi. Et donc on a trouvé cette solution relativement inédite de faire une avant-première de notre premier festival. Pour nous, là, c'est vraiment un film fait par une équipe queer française sur un film à thématique lesbienne, mais avec des actrices queer, c'est rare en fait, et surtout français, c'est très très rare, donc c'était une évidence, il fallait absolument que ce film passe dans le cadre du festival.
Qu'est-ce que t'as pensé du film du coup ?
C'était génial, j'adore le film, enfin, je le trouvais genre fou et fantastique.
J'ai trouvé ça incroyable, je m'étais forcée à pas trop regarder la bande-annonce parce que j'aime pas être spoilée des trucs. Et j'en ai vraiment pris plein les yeux, plein les oreilles aussi, j'ai adoré la musique. Et bravo les lesbiennes aussi quoi, enfin toujours. Mais ouais, j'ai adoré. Ouais.
Je vous demande juste peut-être un petit dernier mot pour les auditeurs.
Ah bah venez évidemment, on vous attend, on serait ravis de vous voir et puis d'échanger avec vous aussi.
Cette première édition aura lieu du 11 au 15 décembre prochain. Pour avoir plus d'informations sur la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site du festival, festival-auriard.com. Il est 6 heures avant minuit, ne vous endormez pas, restez avec nous. C'est plutôt demain à 21h au Triangle ou vendredi à 19h qu'il faudra vous laisser bercer par la performance de Boris Charmatz. Son nom, Somnol. Le chorégraphe dansant et sifflant vous portera dans une sorte de rêve. Plusieurs tarifs sont proposés, 31€, 15€ pour les moins de 30 ans, 12€ pour les enfants de 12 ans et 5€ pour celles et ceux qui ont la carte sortir.
Faut-il séparer l'homme de l'artiste et si oui, avec quel genre de hachoir, Aglaï ?
Oula, si cette question vous intéresse comme Héloïse, et comme moi d'ailleurs, sachez que demain à 20h à la Maison des Jeunes et de la Culture Le Grand Cordel est organisée une soirée de réflexion sur ce sujet. Pendant une heure, venez discuter avec d'autres passionnés et artistes. À quoi sert l'art ? Quel futur pour l'art ? Quels sont les enjeux d'être artiste aujourd'hui ? De nombreuses questions sont au programme. Le débat est gratuit, ouvert à toutes et à tous.
Merci Aglaé. Cyriane a deux invités de marque ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
En effet, Héloïse, ce soir, j'ai un vrai duo devant moi. Elles sont venues toutes les deux en col roulé. Si ça, c'est pas la marque d'un vrai duo quand même.
Cette saison, cette saison.
C'est la saison, il fait froid. J'ai vu, t'as les mitaines. Donc avec ces belles mitaines, j'ai face à moi Fricadelph.
Bonsoir.
Bonsoir. Et à ma gauche,
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. T'es dans le bon sens.
Toujours à gauche.
La gauche, la droite, tu vois comment on se tourne, il y a tout qui change.
Toujours à gauche, ouais. Toujours.
Toujours à gauche. Et à ma gauche, j'ai Marie Bénadette avec ses beaux ongles dorés.
Marie Babette, très
Marie
chère,
Babette,
bonsoir.
Marie Babette,
pardon. Tu en bafouilles.
Ça vous irait bien, Marie Bénadette, ceci. Ça pourrait être sympa, ouais.
Marie Babette. Voilà. Et donc, vendredi, vous serez présente au Club de la Presse pour un plateau Radio Bamboche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer ?
Alors, vendredi, effectivement, on se retrouve à la Salle de la Cité pour un radio spectacle, c'est comme ça qu'on dit ?
Mm-hmm.
Ouais. Effectivement, avec la radio Syllabe, à l'occasion de Radio Bamboche, qui est une radio parodique. Et on a effectivement la chance de faire une chronique de 3 minutes. Autour de cette table.
Tout à fait, sur le thème de la culture.
Tout à fait, la culture.
Un plateau qui sera rediffusé sur Syllabe d'ailleurs. Changement de place.
en studio. Déjà moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est que sur ce plateau, vous serez accompagné de Benoît Hamon notamment, et de Fabienne Synthèse.
Tu peux faire la synthèse en disant synthèse.
Et surtout de la légendaire journaliste Héloïse Descartes qui est là à nos côtés.
C'est vrai.
Et donc moi je vais vous demander comment vous êtes retrouvés là, sur ce plateau quoi.
On va dire par hasard en soi, c'est par rapport à des contacts que Frick notamment a fait cet été et par rapport à un spectacle qu'on a monté et joué en septembre qui fait grand sens avec cet événement du coup. Et donc c'est par rapport à ce... Moi, je vais vous parler, Frick, parlez de votre rencontre de cet été qui nous a mené là plutôt.
Ouais, je me suis retrouvé en plein mois d'août en drague dans un champ. Je ne pensais jamais que ça m'arriverait et donc c'était à l'occasion d'un festival qui s'appelle l'Orange Fest, qui est un festival de musique, de rock et d'art alternatif. Et donc effectivement j'ai fait la rencontre de Pauline qui était une journaliste pigiste qui couvrait l'événement et on s'est énormément bien entendu, si je puis dire.
Ouais.
Donc on a gardé contact pour voir un peu quelle était la suite, pour que moi je découvre un peu aussi son métier de pigiste et puis qu'elle puisse voir un peu ce que je faisais sur Rennes du coup. Et donc effectivement on a écrit un spectacle pour la première partie du collectif Nox Aeterna lors d'une soirée à la Salle de la Cité le 7 septembre. Mmh. Qui prenait forme d'un JT parodique, pour faire bref.
Pour faire court, ouais.
Pour faire court. mais on va peut-être revenir dessus. Et en fait, à cette occasion-là, Pauline s'est dit, mais c'est génial, quoi. Enfin, vous touchez au monde du journalisme, etc. Et donc, elle nous a parlé des 50 ans du Club de la Presse. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle nous a demandé d'y participer. Donc, ouais, c'est une question de circonstance qui nous a menés là. Voilà.
Et donc, justement, vous parliez d'un spectacle. Vous, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce spectacle? Est-ce qu'on pourra le revoir autre part, peut-être?
On aimerait beaucoup pouvoir le rejouer, effectivement, mais il faut pour ça beaucoup de travail, parce qu'il faut monter un dossier pour pouvoir le faire tourner, etc. Mais oui, c'est dans nos projets, effectivement. C'est un spectacle qui est né grâce à donc, Nox Aeterna, qui a organisé une soirée un peu révolte pour la rentrée, suite à tout ce qui s'est passé avec le manque de Premier ministre de cet été. Et on est parti des Jeux Olympiques, du coup, qui ont été un événement marquant pour la communauté queer, puisqu'on a eu une grosse visibilité à ce moment-là, surtout pour le milieu du drag. Et donc, on a voulu faire une satire, effectivement, des médias actuels, et montrer qu'on avait, nous aussi, notre place dans ces milieux-là, tout en voulant dénoncer un petit peu le pinkwashing qu'on peut voir de façon assez récurrente aujourd'hui dans n'importe quel milieu. Donc, voilà. En bref.
Oui, c'est très clair.
Et donc justement, vous serez, enfin, vous touchez à la question de l'information, particulièrement sachant que dans la communauté queer est particulièrement visée dernièrement par beaucoup de fake news de la part de l'extrême droite. Est-ce que du coup, ce spectacle, c'est pas un peu une façon de, enfin, vous en avez déjà un peu parlé, mais de rappeler que oui, le drag, c'est politique.
C'est une façon effectivement de rappeler que le drag est politique. Je pense que c'est aussi une façon de montrer qu'on peut faire autre chose que du divertissement pur et dur en boîte de nuit ou dans des soirées de bar. Mmh. Le drag est un art multiple, avec autant d'artistes que de façons de créer. Et donc je pense qu'il était important qu'on montre effectivement qu'on sait faire d'autres choses, qu'on sait réfléchir nous aussi, comme tout le monde d'ailleurs, mais ce qui est souvent peu dit par les personnes d'extrême droite effectivement en général.
Et donc, justement, tu disais que... Enfin, vous disiez, pardon, Madame Babette.
Oh, je t'oyais, hein, avec plaisir.
Donc, tu disais que... Bah, je sais plus ce que tu disais. Si,
Quelle était ta question, Cyril? À quoi tu pensais?
Maudite question.
L'information, les fake news, ça c'est fait.
L'extrême droite. Ouais.
L'extrême droite. Si, justement, du coup, vous parliez, tu parlais de dépolitisation et tout ça. Et moi, ça me fait beaucoup, enfin, ça me fait penser à Drag Race France, avec l'impact de Drag Race France, qu'on peut voir qui, certes, est politique de par sa présence sur le service public. Mais est-ce que vous trouvez, enfin, c'est quoi votre vision par rapport à Drag Race France? Est-ce que vous trouvez que c'est assez politique ou pas?
Je pense que dans le contenu des épisodes, il y a un effort à faire effectivement sur la politisation. Je pense à un truc en particulier, mais je ne sais pas si c'est propre aux règles de Drag Race de manière générale ou si c'est en France. Mais je sais que typiquement, il est interdit pour le Snatch Game, du coup, qui est une manche dans Drag Race où on doit interpréter un personnage. Et je sais que dans les règles de Drag Race France, il est interdit d'incarner une personnalité politique, typiquement. Ce que je trouve très dommage parce que ça laisserait
vivante.
Place et vivante.
Du moins.
Ah
ouais.
Je n'ai pas cette...
Si, quand même.
On peut faire Charles de Gaulle, ça veut dire.
Très bien,
c'est ça.
Bah, bon à savoir.
Quelle chance.
Et pour rebondir effectivement là-dessus, je pense que oui, ça manque un petit peu de... Peut-être de côté un peu plus politique et engagé. Maintenant, on sait comment c'est dur de se faire une place en tant que personnalité queer, surtout sur des médias de grande écoute, à la télé. Et donc, je pense qu'il faut y aller petit à petit aussi, pour sensiblement montrer patte blanche, et puis pour derrière... peut-être pouvoir dénoncer un peu plus. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça donne de la visibilité à certains artistes, certaines artistes, et qu'aujourd'hui, certaines, justement, s'en servent pour faire avancer des mouvements par rapport à notre communauté ou des combats sociaux tout court, quoi.
Tout à fait. Mais je pense qu'on se réjouit déjà du fait que le drag puisse prendre place dans les foyers français, ne serait-ce que par le prisme de la télé.
Complètement.
Et c'est quelque chose qui n'était pas, en tout cas, capable, enfin, possible, avant Drag Race, notamment.
Est-ce que vous, en tant qu'artiste, donc, qui êtes sur le terrain constamment, je ne sais pas depuis quand vous faites du drag, mais est-ce que vous avez vu une évolution au fur et à mesure des saisons, une modification du public, enfin, est-ce que ça s'est élargi?
Par rapport aux saisons françaises, du coup?
Oui, françaises, ouais. Parce que...
Oui, il y a eu une évolution assez rapide, d'ailleurs, je trouve, parce que déjà, la première saison a été très flamboyante. Mm-hmm. Beaucoup d'artistes parisiens, parisiennes, ce qui fait qu'on n'a pas du tout les mêmes budgets ni les mêmes connaissances en termes d'artistes couturiers, ouais. Perruquiers, perruquières, etc. Donc, ça a commencé très fort. Maintenant, il y a une évolution, oui, dans le sens où Y a des dragues un peu plus alternatives qui commencent à arriver sur Drag Race au fur et à mesure. Je pense qu'il a fallu plaire avec la première saison à tout public. Et puis maintenant, voilà, on va pouvoir passer à d'autres choses. Ouais. Ce qu'on attend surtout maintenant, c'est une représentation des dragues
provinciales.
Bah ouais. Je voulais pas dire ce mot, mais
c'est fait. Je l'ai dit à votre place.
Et des drag kings aussi.
Ouais.
Et des drag kings, effectivement. Ça, c'est un autre débat, ouais. Mais ouais, complètement.
Ça, j'ai l'impression que c'est plutôt propre à la franchise Drag Race, ouais, de manière générale, du coup. Mais c'est vrai que si on pouvait être les premières en France à avoir des kings dans la compétition, ça pourrait être assez crazy.
Et on a malgré tout été les premiers en France à montrer des kings dans l'émission, même si elles n'ont pas participé, mais on a pu les voir quand même. Et pareil avec un homme trans dans le pit crew. Ouais, quand même. Donc bravo pour ça.
Mais il me semble que RuPaul a dit qu'il voulait pas qu'il y ait d'émissions Drag Race, Drag King. Genre que s'il y en avait une, c'était à lui de le faire. Genre c'était pas à la France, tu vois. C'était pas à nous, pouilleux de la France, qui pouvions...
Écoutez, on verra ça. Peut-être que quelqu'un aura l'audace de le lancer avant que...
Peut-être même nous, si ça se trouve, on sait pas.
Pourquoi pas. Bon, un drag king, ça pourrait être intéressant, surtout.
Oui.
En fait, une place, c'est quoi?
Oui, bien sûr.
Une émission 100% autogérée par les drag kings.
Yes.
Et donc, du coup, justement, tu parlais du fait qu'il y avait beaucoup de... Enfin, que ça a commencé à se diversifier avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais... la drague qui fait du Club Kid.
Magnetica,
yes. Exactement. Et justement, tu fais du Club Kid, il me semble,
ouais.
Fricadelph. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi le Club Kid?
Alors, je n'arrive pas à conceptualiser le terme de faire du Club Kid, pardon. Parce que le Club Kid, c'est donc un courant, si je puis dire, oui. un courant qui est né dans les années 70 à New York, si je ne dis pas de bêtises. Faut m'arrêter, Marie-Babette.
Je n'ai pas le savoir absolu, très cher.
Non, mais peut-être que vous savez un peu plus que moi. Et en tout cas, ouais, en fait, il y a une esthétique qui est assez collée à ça, parce que du coup, on est quand même sur des esthétiques très clownesques, très extravagantes, et surtout qui sortent un peu des codes de la mode et de tout ce qui est fashion, en gros. C'était, à l'époque, l'idée de pouvoir sortir comme on le voulait, avec aussi beaucoup d'identités visuelles trash et alternatives. Et qui maintenant s'est un peu, je trouve, transformé en quelque chose de plutôt clownesque et plutôt créaturesque, si je puis dire. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément, parce qu'en fait, c'est vraiment la liberté d'incarner quelque chose d'idéalement, de mon côté, déshumanisé, jusqu'à parfois la créature, ou en tout cas, ne serait-ce qu'une neutralité de genre. Et ouais, je trouve que c'est un courant qui est très coloré, qui a aussi ses mauvais côtés, parce que c'était quand même vachement baigné dans la drogue au moment de la création, en tout cas, de ce mouvement-là, avec James St. James et... comment s'appelait-il ? Michael Alig, je crois. C'est Michael Alig. Et voilà, il y a un super film d'ailleurs sur le sujet qui s'appelle Party Monster, que je conseille, ce qui est un film documentaire, en fait, qui retrace la naissance du mouvement Club Kid. Et en tout cas, effectivement, il est en train d'être repris de plus en plus en France par beaucoup d'artistes. Je pense notamment à Babylone, à Paris, dans la Fierce Faces, au Châtelain, enfin, pas mal d'artistes, Kids Moon aussi. Et c'est, ouais, je trouve ça très intéressant de voir comment on peut perdurer le mouvement Club Kid en 2024, du coup, avec nos normes actuelles et notre manière de faire la fête, quoi. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Avoir en tête des fois quand je pars en soirée. Mais c'est un peu de la connerie aussi, je trouve.
Et c'est donc pour ça les lentilles, parce que nos auditeurs et nos auditrices le voient pas, mais tu as mis des lentilles blanches.
C'est vrai, ouais.
Très en raccord avec ton nom de freak.
Freak. Tout à fait. Ouais, ça m'arrive de. C'est ma petite fantaisie, quoi. De, même sans être en drague, avoir des petits éléments qui vont rendre le visage un peu créature. Mais déjà, le simple fait qu'en tant qu'artiste drague, nous, on se soit rasé les sourcils, typiquement. Parce que c'est déjà bien plus simple que de les coller, ça prend trop de temps, c'est long et nul. Mais du coup, on a déjà un espèce de côté un peu alien dans notre quotidien, je trouve, parce que c'est ce qu'on est en fait. Enfin, moi, je me ressens comme une freak dans cette société, en fait.
Ouais.
Voilà.
Et justement, t'as parlé des noms, enfin de ton prénom freak, mais du coup, vous, d'où il vient votre prénom? Enfin, je ne sais pas si le secret doit rester gardé, mais.
Non, on peut en parler. Allez-y, bien commencer sûr. Si vous voulez.
Alors, moi, Fricadelph, c'est né d'une fricadelle qui cuisait dans une poêle à l'époque où je faisais ce genre de soirée, a priori. Et ouais, j'ai un peu phasé ouais, sur cette fricadelle là qui cuisait, et je me suis dit, mais en fait, décomposé en deux mots, c'est hilarant, quoi. Parce qu'il y a le côté freak, et Adèle, c'est un nom qui revenait beaucoup dans mon art, en gros. Typiquement, j'ai découvert la musique grâce à la chanteuse Adèle. Et enfin, après, il y a pas mal d'autres références qui sont venues s'ajouter à tout ça. Et je me suis dit, OK, let's go. Au début, j'avais pensé au fric, mais je me suis dit, le rapport monétaire dans un nom drag, pas sûr. Et en fait, ça a pris sens avec ce que veut dire le mot freak, tu vois, le fait d'être un monstre, etc. Que ce soit en société ou du coup dans mon art. Et ensuite, j'ai voulu le neutraliser pour lui enlever toute notion de genre. Parce qu'on m'appelait Madame Adèle, ou on m'appelait Adèle, tout simplement. Et je me suis dit, rajouter tout simplement un F pour ce côté d'Adelphité, et du coup de neutraliser en fait aussi toutes les personnes qui m'entourent, et toutes mes inspirations, et tous mes personnages que je vais incarner. Ça donne Fricadelph, globalement. Voilà.
Et pour Marie Babette, il y a plusieurs inspirations. Donc Marie la Vierge, qui fait référence à mon passé de catholicisme. Et Marie Babette pour Marie-Antoinette, qui est une femme que j'apprécie tout particulièrement. Voilà. Et puis pour faire une référence à la royauté, je voulais pas de jeu de mots parce que je voulais garder quelque chose d'assez branding qui me permette justement d'avoir plusieurs personnages sous ce même nom. Et Babette parce que j'ai voulu garder la première syllabe de mon nom de naissance, du coup. Et j'ai rajouté Bête parce que, déjà, d'une, c'est un prénom très français, et deux, parce que Bête a plusieurs sens: Bête l'animal et Bête la bêtise. Donc je me suis réapproprié ces deux choses, et Bête l'animal qui me permet de partir dans des looks type chien, chat,
ah oui, autre.
Voilà,
la Babette en caniche, on s'en souvient.
Et donc justement, ça crée tout un personnage. Toi, Fricadelle, j'ai l'impression que c'est un peu l'opportunité de repousser un peu les limites de ton genre, enfin de...
Complètement.
Et donc, enfin, d'où... Enfin, je sais pas d'où ça vous vient. Comment vous avez commencé le drag, en fait?
Moi, c'est arrivé post-confinement. Un grand besoin de parler et de m'exprimer. C'est parti de ça. Je savais pas trop dans quoi je m'engageais, mais j'ai toujours aimé faire du théâtre, de l'acting, etc. Et je pense que c'était... la bonne forme pour pouvoir mélanger tous ces centres d'intérêt. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, j'explore encore avec Babette jusqu'où je peux aller. Donc là, par exemple, les expériences de radio ou de spectacle, monter des spectacles, par exemple, c'était pas du tout dans mes objectifs à la base. Et puis finalement, on l'a fait. Donc,
et elle l'a fait comme personne, en plus.
donc voilà, c'est une exploration quotidienne de ces personnages. Mais oui, la première envie, ça a été de m'exprimer. D'exprimer ce que j'avais à l'intérieur, ce que je ressentais d'un point de vue émotionnel, sentimental, sur ma vie, mes échecs, mes réussites, etc. Mais aussi vis-à-vis de la société, du coup. Et c'est pour ça que mon drag est assez engagé en soi. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en fait, le Covid a été... la façon dont ça a été géré, j'étais en mode, en fait, il faut que je parle. Je suis pas plus bête qu'une autre, et faisons entendre ma voix. Voilà.
Je rejoins complètement Babette là-dessus, sur le côté de l'expression. Moi, le drag s'est montré à moi d'une manière assez tout aussi random que cette histoire de fricadelle. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire du drag avant même de savoir vraiment ce qu'était le drag, parce que ça s'est fait via des rencontres, du coup, d'anciens amis que j'ai pu rencontrer, que je voyais aller en soirée, du coup, avec des costumes ultra club kid, des looks ultra colorés, des ballons en hélium de partout pour aller en teuf. Enfin, c'était complètement crazy, et je me suis dit, OK, je veux tenter la chose. Et aussi dans mon passif, du coup, j'ai quand même fait pas mal de scènes par le prisme de la musique et du théâtre aussi. Et c'était en fait un peu une évidence, dans le sens où dans la musique, il y avait quand même vachement d'étapes avant de pouvoir être sur scène. Donc la production, la création, l'écriture, puis le fait de vendre son projet afin de pouvoir être sur scène et de pouvoir le défendre sur scène. Là où le drag avait un rapport avec la scène qui était tellement plus implicite et qui me paraissait tellement plus simple, j'ai vraiment vu ça comme, OK, j'ai quelque chose que j'ai envie de dire, j'ai une esthétique que j'ai envie de montrer, j'ai un univers que j'ai envie de créer. J'envoie un message sur Instagram, par exemple, à un artiste, il peut me mettre sur scène et je peux le faire. Ou alors je peux créer ma propre scène aussi, comme on le fait maintenant, du coup. Et donc, effectivement, après ça, c'est là que j'ai vraiment appris à comprendre ce qu'était le drag, en commençant par, du coup, le Club Kids, ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, ça s'est fait tout naturellement, et ça prend son sens tous les jours. Je crois que j'arrêterai jamais d'apprendre. Et chaque jour, je me dis, ah oui, d'accord, c'est pour ça que je fais du drag. Et là, ce passage radio me fait dire, OK, c'est aussi pour ça que je fais du drag.
Voilà. Bah en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour ce passage radio.
Avec plaisir.
Et on vous retrouve. C'est à quelle heure, c'est à quelle heure le...
Donc le plateau le Radio plateau Bamboche des 50 ans du Club de la Presse, c'est de 19h à 20h ce vendredi et ce sera diffusé sur Silab. Vous pouvez aussi venir directement à la salle de la Cité pour nous voir.
L'entrée est à prix libre.
Exactement. Merci de le préciser, Cyriane.
C'est important.
T'es là.
Très bien.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous pour votre accueil.
Merci à vous.
6 heures avant minuit.
Et il vient de temps en temps nous présenter les sorties de la semaine. C'est Jean qui vient faire sa chronique. Jean, j'attends que tu t'installes. Ça se passe comment?
Il installe son téléphone à la magnifique
coque
léopard.
Il est en retard comme d'hab, fidèle à lui-même. Non, mais c'est pour ça qu'on l'aime, quoi, finalement, j'ai envie de dire.
Vous ne la voyez pas, mais sa coque est réellement magnifique. Blonde clamour.
Bonsoir, Jean.
Salut, Héloïse.
Ça biche?
Ça va et toi?
Bah ouais, t'as mué.
Ouais, j'ai mué. Bah en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe de rock qui s'appelle Voxlo. Alors pour ça, bah, je prends ma plus belle voix de basse. Voilà.
Merci. Merci pour ça.
Bon, ça va pas du tout avec mon physique, c'est sûr. Ça risque de vite agacer tout le monde, mais j'en ai rien à foutre. Et ça, c'est rock'n'roll. Allez, jingle. Pardon, voix de basse, j'avais oublié. Puis ça va pas du tout ce jingle pour parler de rock. Allez, jingle rock'n'roll.
Est-ce que vous voulez du rock fort? Est-ce que vous voulez du hard rock?
Ah ouais!
Ah, là j'entends. Voilà.
Eh ben oui, faut mettre ton casque, Jean.
Bah ouais, mais moi je préfère quand il y a du
casqué
son dans les enceintes.
Ouais,
quand même, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça donne envie un peu de se lâcher dans la fosse. Alors ok, c'est parti. Aujourd'hui donc, je vous parle de Voxlo, qui sera en concert à l'Ubu vendredi soir. Voxlo, c'est un groupe parisien. C'est pas pour ça que c'est pas bien. Et quand c'est programmé à l'Ubu, c'est généralement très très bien. On écoute un extrait.
While the sun is glowing on the temple in the field, the shiny reflection of blind color is unreal. The talking of the drums, so heard the banging of the guns. The chosen one is leading them to jump up the street banks.
Some world of face, paru en 2018 sur le premier album de Voxlo. Alors les puristes me diront peut-être, mais c'est pas du rock. Effectivement, avec ses lignes de synthé hypnotiques et sa basse lourde et groovy, Voxlo flirte avec la techno, parfois avec l'acide. Mais le groupe avec sa formation guitare, basse, batterie et synthé est en fait l'héritier d'un des derniers grands courants rock, le post-punk, qu'on a appelé New Wave en France. Des groupes comme Depeche Mode, New Order ou The Cure qui justement font la jonction entre rock et musique électronique. Voxlo, c'est une ambiance sombre mais jamais froide. C'est une basse qui vous réchauffe les tripes, des guitares qui vous ramènent à vos années rebelles et des synthés qui vous font trouver des étoiles au plafond d'une cave. Bon, il y a du son en studio.
C'est bon, tu as suffisamment de.
Ah oui, bah ça tombe bien parce que j'ai perdu mon casque.
Hein.
Voilà. A New Place in Town, issu de leur album Keep on Falling, paru l'année dernière. C'est avec ce morceau que j'ai découvert Voxlo, une vraie bombe. Si les extraits que vous venez d'entendre vous ont plu, je vous conseille d'aller écouter les deux albums du groupe parus sur Burn Bad Records et je vous donne rendez-vous vendredi soir à l'Ubu.
Arrêtez. Merci Jean.
Avec plaisir.
Ta chronique est à retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux pour que tout le monde voit ta magnifique veste en cuir et tes super lunettes.
Merci.
Ça vaut le détour.
Et puis j'ai mon t-shirt Radio U.
Yes.
C'est mon t-shirt le plus rock'n'roll.
Les copains de Radio U.
Trop stylé.
Radio U.
Le t-shirt.
Et puis sur le site de Silab aussi.
Tout à fait, ce sera à retrouver demain matin.
Et voilà, soyez au rendez-vous. Merci Jean.
Allez, j'y vais moi.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, un retour sur nos reportages. Laissez-nous un
message. Pitié, vocal. Donnez les datas.
Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Je répète, 02 30 96 25 35. Votre message sera peut-être diffusé à l'antenne. Merci Eva pour la technique. À
merci,
demain.
La bosse.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du show.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.